I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission où on vous recommande trois trucs cool en 20 minutes, que ça soit des jeux vidéo, de la musique, de la BD, des livres, etc., etc. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui pour vous accompagner dans ce voyage incroyable à travers la pop culture, j'ai à mes côtés Timo et Thomas qui sont encore là pour ce troisième épisode de cette session de Positron. Comment allez-vous, messieurs ?
Eh ben ça va bien, tout va bien.
Ouais, tranquille. Ouais, bah c'est bien.
Tout va bien, le soleil brille.
J'ai un pur soleil dans la face, ça fait du bien.
vous me donnez un petit peu envie là, j'avoue. Mais bon, en même temps, on enregistre un tout petit peu avant la diffusion. Donc là, au moment de la diffusion, on est en juin. J'espère que au moment de la diffusion, j'aurai moi aussi du soleil dans la face, parce que bon, sinon ça serait un peu triste.
Et moi, j'espère que j'en aurai plus.
Il n'y en a jamais assez. Forcément. Mais vous savez quoi, même si la journée est pluvieuse et si on est un petit peu déprimé, eh ben c'est pas grave parce qu'on a des trucs super cool dont on va vous parler et pour lesquels que vous allez pouvoir apprécier pour éclairer votre journée quelle qu'elle soit. On va commencer tout de suite avec un roman qui s'appelle La nuit des cannibales, qui est un roman de mon grand ami Gabriel Katz, qui a d'ailleurs participé à l'émission une fois. Mais franchement, même si c'était pas un pote qui l'avait écrit, je pourrais le recommander. Vous vous souvenez, en fait, à chaque fois qu'il sort un roman, c'est pratique, ça me fait un positron facile. Parce que, non pas parce que j'ai envie de promouvoir ces trucs, mais parce qu'à chaque fois, ils sont super bien. Donc, en l'occurrence, vous vous souviendrez que j'avais évoqué le tout premier, c'était le Puits des Mémoires. Et c'était un univers héroïque fantasy assez réaliste entre guillemets, genre presque plus médiéval qu'héroïque fantasy, mais c'était un univers donc vraiment de fantasy quoi, c'était pas du tout dans le quotidien. Et il en a sorti différents depuis, il a plein de cordes à son arc, et là il a un roman qui est vraiment particulier, donc qui s'appelle La Nuit des Cannibales, qui est sorti il y a quelques mois à peine, et qui est contemporain, mais contemporain un petit peu fantastique. Et j'ai presque pas envie de vous dire de quoi il s'agit, mais je vais quand même le faire parce que c'est le tout début. C'est le genre le premier chapitre quoi. C'est le pitch du livre. Le personnage principal est un adulte qui a hyper bien réussi dans la vie. Il est plutôt riche, il se démerde, etc. Et un jour, il va lui arriver un truc et il se retrouve dans le corps d'un adolescent et entraîné dans une sorte de course-poursuite à mi-chemin entre Highlander quoi. Et mais lui, il comment dire, le truc qui est super bien avec ce qu'écrit Gabriel Katz, c'est que il réussit à mêler à la fois la comédie et d'autres styles de manière parfaitement cohérente. Et franchement, le premier chapitre de La Nuit des Cannibales, c'est l'un des trucs les plus drôles que j'ai lu de ma vie. C'est impossible de le lire et de pas rire non-stop sur le premier chapitre, quoi. Et au-delà de ça, c'est amusant parce que, enfin, le livre est bien parce qu'il est drôle, mais c'est pas que drôle. Et c'est pas l'attrait principal du truc. L'aspect comique, c'est juste que c'est son écriture qui est habile et que donc il écrit de manière amusante. Mais au-delà de ça, donc il y a toute une mythologie, un lore qui se développe dans l'histoire, et il y a alors pourquoi il s'est genre réincarné, qu'est-ce que ça veut dire, qui il est, qui sont les gens qui vont essayer de le trouver, avec qui il va de qui il va se rapprocher, etc., etc. C'est vraiment, il y a toutes les composantes d'un bon thriller un petit peu métaphysique. Et c'est une qualité rare dans cette magie qu'il réussit à créer en alliant la comédie et tous les autres éléments de ce roman. Donc c'est vraiment un truc que je recommande très sincèrement, au-delà du fait que ça soit l'un de mes meilleurs potes. Franchement, je crois qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de gens qui ont lu ces livres pour savoir que, enfin pour attester du fait que c'est pas juste parce que c'est un ami que je les recommande, c'est vraiment, ça n'a presque rien à voir, c'est vraiment parce que c'est un excellent auteur et que ses livres sont juste très très bons quoi. Donc voilà, c'est un style très différent de l'heroic fantasy que vous avez peut-être connu quand je vous en ai parlé. Mais c'est quand même c'est genre un autre plaisir, un autre type de plaisir à prendre avec la qualité de son écriture. Donc, je vous le recommande très chaleureusement et très sincèrement. Ça s'appelle La Nuit des Cannibales. C'est très différent de ce que vous avez pu lire avant ou ailleurs. Et c'est quand même une qualité, indéniable, je pense.
Et pour donc, ceux voilà. qui connaissent Gabriel Katz, c'est ça reste dans la même lignée. Enfin, c'est on reconnaît la patte de l'auteur ou pas?
Tu sais, je sais pas. C'est difficile à dire. Moi, je reconnais la personne parce que je le connais ouais. tellement bien. Tu vois, je le reconnais lui. La patte de l'auteur, le style est tellement différent. Je saurais pas te dire. Je crois, enfin, pas le style, le contexte est tellement différent. Oui. Je saurais pas vraiment dire, mais je crois que quand même il y a un certain détachement et encore une fois cet humour un petit peu sec, mais très efficace, qui existait dans les autres romans aussi, qui existe toujours dans les autres romans, y compris N'oublie pas mon petit soulier si vous l'avez lu aussi, qui est là pour le coup un thriller vraiment thriller terre à terre et qui est très bon aussi, mais je crois que la qualité de l'écriture se retrouve. Le style, je ne saurais pas te dire.
Ok.
Moi, tu éveilles ma curiosité parce que quand je vois le titre La Nuit des Cannibales, directement, je pense à du Romero, La Nuit des Morts-Vivants.
Ouais,
pareil.
Ouais.
Et donc, j'imagine que c'est peut-être un clin d'œil, je ne sais pas. Mais et en tout cas, à aucun moment, je m'attends à ce que tu me parles d'un truc comique, en fait.
Ouais.
Et du coup, ouais, ça éveille bien ma curiosité.
Bah c'est comique, mais c'est juste que c'est drôle parce que c'est écrit de manière drôle, tu vois. C'est pas comique dans le sens où quand tu dis effectivement La Nuit des Morts Vivants, moi je vais penser à Zombieland, tu vois, où c'est genre c'est très drôle et c'est un film de zombies drôle, mais là c'est pas le cas, c'est vraiment pas ça. C'est juste, enfin je sais pas, c'est difficile à décrire. C'est juste drôle parce que c'est écrit d'une manière qui va te faire rire.
C'est pas une comédie, mais non. L'humour est présent dans l'univers.
C'est ça. Les situations, il y a certaines situations où l'absurdité du truc est enfin bref, je vais pas continuer à essayer de le décrire parce que je sais que j'y arriverai pas, mais c'est pas une comédie genre comme on voit souvent au cinéma, un truc que j'adore moi, les films Marvel, il y a plein de machins de blagues dans ces situations un petit peu étranges. C'est pas ça. C'est pas genre maintenant on va faire une blague et vous allez rire parce que parce qu'il y a eu simplement une blague. C'est un petit peu différent. Donc voilà pour La Nuit des Cannibales, qui est un roman que je vous recommande. Timo, de quoi tu nous parles?
Ben moi je vais vous parler d'un comics qui est sorti chez Bliss Comics, une maison d'édition qui s'est lancée l'année dernière et qui publie le répertoire de Valiant. Donc c'est pas du tout du Marvel ou du DC Comics, c'est de l'indé. D'ailleurs, Giant Days dont j'avais parlé il y a deux épisodes, c'était aussi de l'indé. Je suis un peu dans une période indé en ce moment. C'est un bon gros pavé de 328 pages. Donc ça va vous occuper, un bon week-end pluvieux. J'espère qu'au mois de juin ce sera pas trop le cas, mais dans ce
c'est ton jamais, c'est ton jamais.
Ouais voilà, on se prépare au pire. Donc Ivar Timewalker, c'est C'est un comics qui va parler, bon bah Time Walker déjà ça spoil un peu, mais ça va parler de voyage dans le temps avec Ivar qui est un des héros de chez Valiant, qui est un immortel en gros. Il a deux autres frères aussi qui sont immortels, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes capacités. Lui, il peut se déplacer à travers des arcs temporels et c'est assez tordu comme concept, mais... En lisant, on se dit ok, je te crois. C'est un peu comme pour Doctor Who, faut pas chercher le côté scientifique derrière. On va se dire ouais, ok, ça fonctionne comme ça. Je veux bien te croire. Au niveau de l'histoire, donc ça commence avec Nila Seti, une scientifique qui est en train de faire une grosse découverte. Elle va découvrir le voyage dans le temps. Donc rien que ça, juste un tout petit truc. Hein. Et par la même occasion, bah, va mettre sa vie en danger car elle va se faire attaquer d'ici 10 minutes par des chrononautes, des soi-disant conquérants de l'espace-temps un peu débiles. Mais je forcément débarque... Débarque Ivar, juste à temps. Je cherchais à faire une blague avec Bob Moran qui d'Indochine et tout, mais j'ai pas réussi. Mais c'est pas grave. Donc débarque Ivar, le marcheur temporel.
c'est pour ça qu'il faut préparer ces positrons. C'est beaucoup de travail, Timo.
Ouais.
Le talent ne fait pas tout, mon ami.
Exactement, mais c'est pas grave. Donc Ivar débarque et va la mettre en garde justement contre son destin funeste, et ils vont devoir s'enfuir à travers le temps pour alors, ni plus ni moins que sauver le passé, le futur et le présent. En gros, une toute petite menace. Donc c'est un bon gros pavé, c'est très bien écrit, c'est assez drôle. Le seul truc qui, moi, m'a un peu déçu, c'est qu'il y a une romance qui s'installe un peu trop facilement. Genre, au bout de 2-3 sauts dans des arcs temporels, ils vont se dire « Ah, je t'aime !» Bon, là, j'ai trouvé ça un peu chelou. Mais si vous êtes fan de Doctor Who, par exemple, ou de Monde Parallèle, ou de Voyage dans le Temps, plus généralement, ou de SF, c'est un très très bon comics avec de très bons dessins. Il y a trois dessinateurs qui s'enchaînent. Les trois ont un niveau assez équivalent et ça fonctionne vraiment très très bien, même si Pere Pérez, le dernier, il les explose tous, hein, à mon avis. Mais voilà, c'est une histoire complète et ça a été pour moi une super découverte et un très très bon moment.
Pardon, c'est mieux si je réactive le micro, en fait. mais ok, super. Donc, Ivar Time Walker, tu disais c'est 300 pages quand même et c'est une histoire complète, quoi. C'est de truc, c'est un début, une fin et à la fin, bah, c'est terminé, quoi.
Ouais, il y a possibilité de faire d'autres trucs derrière. Ça
peut-être,
reste un comics qui a un univers très, qui fait partie de l'univers Valiant qui est assez complet, hein, qui se construit énormément. Mais juste en dehors de ça, ouais, c'est terminé et on a suivi une
Oula,
sorte
Thomas
de...
tape sur son clavier.
Ouais, oh, il se passe quelque
excusez-moi.
Chose.
Là, j'ai l'impression qu'il y a eu un moment de panique. Hein, genre, mais non, applique pas le patch, ça va tout casser. Non, c'est pas ça.
Pardon.
Je vais
me fouetter.
Donc, ouais, ça se termine. C'est même la jeunesse de d'un autre héros assez sympathique. Donc voilà, c'est plutôt cool si vous avez envie de découvrir le catalogue de Valiant et de Bliss Comics. Ben voilà, c'est une sorte de Doctor Who avec qui a la trempe d'Han Solo et c'est plutôt sympa.
Je vais te poser une question de noob complet. C'est quoi Valiant et Bliss Comics?
Alors,
là,
Bliss
je
Comics,
sens que j'ai offensé des gens, je suis désolé.
Non, c'est normal que ceux qui ne connaissent pas trop les comics sachent pas trop. C'est en fait Bliss Comics, c'est une maison d'édition qui a été lancée l'année dernière et qui publie le catalogue de Valiant, qui est une maison d'édition un peu comme Marvel et DC Comics. Donc sauf que c'est un peu plus petit, c'est moins reconnu, mais ils ont des très très bonnes histoires et du coup Bliss Comics a pris le pari de les publier, de les adapter en français. En gros.
D'accord. Et Valiant donc c'est une maison d'édition américaine, un petit peu comme Un petit peu c'est comme, un,
c'est,
comme
ouais,
Image
c'est exactement
Comics
ça,
ou...
Exactement, ouais. Comme ouais, Image, d'accord. Dark Horse et tout ça. C'est, sauf que eux, ils ont, ils ont un univers vraiment crédible, mais ils n'ont pas encore, ils ont pas encore une très très grosse notoriété mondiale encore. Mais je pense que ça va changer.
D'accord. Ok, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Timo. C'est donc au tour de Thomas.
Ok, alors moi, ce coup-ci, je vais vous parler d'une série, et je le fais avant que ça revienne à la mode grâce au futur Call of Duty, parce que c'est une série centrée sur la Seconde Guerre mondiale. Elle comporte 10 épisodes, donc c'est vraiment pas très long, il y a un épisode dure environ une heure, donc ça prendra pas énormément de temps de tout voir. Alors, vous me direz que c'est pas le sujet le plus original du divertissement. La Seconde Guerre mondiale, il y a énormément de films, mais des séries, il n'y en a pas tant que ça. Et celle-là en particulier, qui a été réalisée par Spielberg et Tom Hanks, à mon goût, tire son épingle du jeu sur plusieurs aspects. Mais avant ça, ça parle de quoi ? Tout au long des 10 épisodes, on va suivre l'histoire des soldats de la Easy Company. La Easy Company, c'est un régiment de l'infanterie aéroportée américaine. On va donc suivre tout leur parcours depuis leur formation, avant même que les États-Unis rentrent en guerre quasiment, jusqu'à la mort d'Hitler en fait. Donc là, je viens en une phrase de faire et un spoil. Et un point Godwin, donc c'est...
Bien joué.
Comment Hitler meurt à la fin.
Non, et donc,
t'es vraiment qu'un nazi. On peut partir
ouais,
tout de suite. Oui.
Je suis un monstre. Non, on vit l'histoire du point de vue de ces hommes, et au travers de leur propre expérience. Et la longueur du format de série, ça nous permet, et c'est là pour moi un des intérêts, de plus en apprendre sur eux. On a beaucoup plus le temps de s'attacher aux personnages. Plus le temps par rapport à un film qui durerait une heure et demie ou deux heures. Par exemple, du coup, le Soldat Ryan qui a été réalisé par le même duo. Du coup, j'en étais... Oui, alors, comment dire ? Un épisode parfois peut être complètement centré sur un seul de ces personnages, par exemple, je sais pas, au pif, le médecin du groupe. Et chaque épisode va raconter un événement, par exemple, la prise d'une station radio allemande, particulièrement clé, je sais pas, dans la stratégie du moment, ou alors il y en a un évidemment sur le jour du débarquement. Même si pour eux, donc vu que c'est une troupe aéroportée, ils ne sont pas arrivés sur la plage, ils ont été largués directement derrière les lignes ennemies. Et donc j'ai un blocage.
T'inquiète pas, reprends ton temps, c'est pas grave.
Toute cette immersion avec ces gens et le fait qu'on s'attache beaucoup plus à eux, ça rend leur disparition possible encore plus touchante, et même les scènes de suspense, on va dire de grosses batailles, c'est encore plus intense parce qu'on est énormément attaché au personnage. Et je ne l'ai pas précisé, mais cette histoire est tirée de faits réels. C'est pas en fait, j'ai pas vérifié, mais je sais pas si le Soldat Ryan c'était une histoire vraie. En tout cas, là ça l'est. C'est même tiré d'un bouquin qui a été écrit par un historien américain, j'ai perdu son nom malheureusement. Et voilà, chaque
historien c'est Stephen Ambrose.
Ok, d'accord, voilà, j'avais oublié de le noter. Et donc chaque début d'épisode, ça commence avec l'extrait d'une interview d'un vétéran ou un vieux papy. À ce moment-là, l'interview devait avoir 80 ans. Et on comprend très vite que les personnes qui sont interviewées en début d'épisode, ce sont les gens qui sont joués par les acteurs dans la série. Et ils vont, en quelques phrases, ils vont raconter, justement, donner leur ressenti sur l'événement qui va être développé dans l'épisode. Donc ça renforce encore ce sentiment d'immersion, d'attachement au personnage quand on voit cette personne en vie. Enfin, aujourd'hui, la série date du début des années 2000, donc encore une fois, 15 ans plus tard, je ne sais pas si c'est encore de ce monde, mais en tout cas à l'époque il l'était, et on les voit raconter leur expérience. Puis juste après, on voit en tout cas des acteurs la vivre. Il y avait un gros budget derrière. Niveau réalisation, c'est vraiment bien foutu. Encore une fois, le côté immersif et le côté historique, du coup, est particulièrement efficace. Et c'est pour ça que moi, je trouve cette série extrêmement marquante. Elle a aujourd'hui 16 ans, 17 ans peut-être. Elle a été extrêmement acclamée à son époque. Les critiques ont été assez dithyrambiques. Mais pourtant, aujourd'hui, j'en entends pas énormément parler. Si on vous demande une série à regarder, on va vous parler peut-être de Walking Dead ou The Wire ou, je sais pas, Mad Men, Breaking Bad. Mais rarement, on va parler de celle-là. Et je trouve ça dommage, en fait. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ici, j'en reparle pour lui faire un petit coup de pub. Enfin, un coup de pub, mais... je trouve qu'elle elle le mérite. Elle le mérite énormément.
Je suis assez d'accord. Il y a eu cette vague en fait créée par Il faut sauver le soldat Ryan à la fin des années 90, début 2000, qui était, enfin, cette manière de montrer la Deuxième Guerre mondiale était absolument saisissante. Et pour ceux qui l'ont vécu à l'époque, qui étaient déjà adultes et qui se souvenaient un petit peu par enfin, il faut comprendre que dans les années 70-80, la Deuxième Guerre mondiale était encore vraiment dans les esprits, c'est moins le cas aujourd'hui, surtout avec les questions de terrorisme qui ont un peu remplacé ce traumatisme. Et la manière de discuter de la Deuxième Guerre mondiale dans les médias comme la télé et le cinéma ont été complètement transformées par ce film de Spielberg qui ensuite a décliné avec la série, qui t'as raison, est vraiment incroyable. Et à l'époque... Pour l'avoir vécu, quand Band of Brothers est sorti, c'était invraisemblable. Enfin, vraiment, c'était une nouvelle manière d'envisager la télévision. Alors qu'il s'est ensuite distillé dans toutes les séries dont tu parles, qui sont devenues, du coup, c'est à ce moment à peu près que la série est devenue aussi noble, entre guillemets, que le cinéma. Pas que avec Band of Brothers, mais ils en faisaient partie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'en souvient un petit peu moins peut-être que des trucs comme Les Sopranos ou ce genre de trucs qui étaient en fait de plus ou moins de la même époque, mais qui sont plus restés dans les esprits. Et c'est vrai que Band of Brothers, mais enfin, c'était dingue, quoi. Et je disais, ça a marqué le cinéma et la télé, mais comme tu l'évoquais avec le jeu vidéo, les premiers Medal of Honor et Call of Duty sont vraiment venus, je pense, de cette mode, quoi. Ça a influencé toute la culture pop dans son ensemble, pas que le ciné et la télé. Donc,
complètement. Alors, déjà, je note... Je reviens sur deux trucs. Tu fais bien de citer plusieurs fois le nom de la série parce que je réalise que moi-même, je ne l'ai pas donné. Donc, Band of Brothers, voilà, je m'excuse. Et oui, ce que tu disais sur Call of Duty, évidemment, pour l'émission, j'ai relu un petit peu autour de la série et j'ai lu qu'il y avait, par exemple, des cartes multijoueurs de Call of Duty qui étaient totalement calquées sur des scènes, des lieux d'action de la série.
Ah, c'est donc, énorme.
Il y a une inspiration totale.
Ouais.
Et le casting, il a l'air ouf. Moi, je connais pas du tout la série. J'en ai
tu
entendu
connais
seulement
pas la série.
Parler. J'en ai entendu parler de nom, mais je l'ai jamais vu. Et j'ai le casting sous les yeux, mais c'est un truc de ouf. Michael Fassbender, Tom Hardy, James McAvoy, Damian Lewis.
Mais tous ces gens-là n'étaient pas connus à l'époque, tu sais. C'était des gens qui sont...
Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est vraiment des gens qui se sont révélés être de bons acteurs. Il y a même, je crois qu'il y a Vin Diesel qui fait une petite apparition,
ah ouais
je crois, ouais. Je me souviens plus, mais
il y a,
je crois
il y a même, peut-être le plus connu à l'époque, ça devait être un acteur de Friends.
David Schwimmer, ouais. Qui pour le coup, alors c'est vraiment à mon sens le ratage de la série, quoi. Heureusement, il est là que dans un ou deux épisodes, mais il joue le sergent instructeur et t'as l'impression d'avoir Ross qui t'engueule parce que t'as déplacé les trucs dans son musée, quoi.
C'est toujours la difficulté des acteurs comme ça, tu leur colles une étiquette, c'est pas évident.
Ouais, le problème c'est que c'est des acteurs qui se jouent eux-mêmes dans et surtout dans ces longues séries, et après quand tu les sors de la série, ils arrivent pas à jouer autre chose parce que c'est je crains malheureusement que ça soit pas des bons acteurs quoi. C'est juste des gens qui jouent, qui sont eux. Et David Schwimmer, bon, sa carrière cinématographique malheureusement n'a pas été fulgurante. À mon avis, pas juste parce qu'il a l'étiquette qui lui colle à la peau, simplement parce qu'il a eu de la chance d'être dans Friends et qu'en fait, c'est pas un super acteur, quoi. C'est juste qu'il est drôle comme il est, en exagérant ses caractéristiques, ses traits à lui. Mais
Pour le coup, ça va, parce que le personnage qu'il incarne dans cette série, c'est pas un personnage qu'on est là pour aimer. Donc,
ouais. Ça, moi, le problème, c'est que vraiment, je voyais Ross de Friends, quoi. Mais bon.
Mais
c'est vraiment le seul petit limite faux pas, tout le reste de la série est complètement mémorable. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas 10 000 choses de qualité à faire aujourd'hui, là, j'aurais envie de retourner revoir Band of Brothers, quoi.
Bah, moi, j'ai bien envie de voir, en tout cas.
Bah, très bien. Écoute, voilà, ça a fonctionné. Merci, Thomas.
Mais tant mieux.
Donc, c'est la fin de cet épisode. On va vous rappeler tout ce dont on a parlé. Il y a La Nuit des Cannibales, qui est un roman pour tous. Ivar Time Walker, un comics pour fans. Et Band of Brothers, une série pour tous. Effectivement, je cautionne tout à fait. C'est trois recommandations de qualité. Enfin, pour Ivar Time Walker, je sais que c'est de qualité parce que c'est Timo, qui est un joyau de positron, qui nous en parle. Mais les deux autres, je les connais effectivement moi-même. Et donc, c'est la fin de notre épisode. Et évidemment, comme toujours, je vais demander à nos deux co-animateurs de nous dire où on peut les retrouver sur Internet. Si on en veut plus, à commencer par... Allez, on va changer un petit peu par Thomas.
Et ben moi, on me retrouve toujours sur Twitter, @tuto, donc T2O, TOW.
Même toi, t'arrives pas bien à te rappeler, en fait.
Et ben oui. Donc, il y a des chats, il y a des jeux vidéo et un petit peu d'espace. Je me suis engagé à réécrire dessus, alors... peut-être que d'ici la diffusion, ça sera
non,
fait.
Non, mais c'est alors... pas peut-être. C'est pas peut-être, Thomas. Tu t'as pas le choix. T'as plus le choix maintenant. Ta crédibilité Internet qui est en jeu.
On s'en rend pas compte, mais les petites histoires comme ça, ça prend énormément de temps à préparer. Quoi.
Rome n'a pas été construite en un jour. Il faut suer pour avoir la récompense. Il faut plein d'autres trucs comme ça. Ok, bah écoute, on te souhaite bon courage pour ça en tout cas. Timo, quid de d'Abrutim?
Alors justement, on peut me retrouver donc sur Twitter et Facebook sur @abrutim, sur Instagram pareil aussi. On peut me retrouver sur ma chaîne YouTube Too Many Books, que je co-anime avec Audrey, dans laquelle je parle de comics, BD, manga, romans, et dans la team de Geeking, donc twitch.tv/geeking, dans laquelle je parle aussi de comics, BD, manga, un peu moins de romans, et dans laquelle je dessine aussi beaucoup. Je fais des streams de dessin tous les jeudis soirs. Donc voilà, c'est à peu près où on peut me retrouver.
Merci beaucoup Timo. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter et sur Facebook, comme vous le savez. Vous pouvez également retrouver cette émission et bien d'autres sur frenchspin.fr. Et c'est à peu près tout. On vous fait des grosses bises et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le dernier épisode de cette session de Positron. Mais de quoi va-t-on parler? Que va-t-il se passer? Je suis sur le bord de mon siège. À dans 2 semaines. We'll be right back.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.